Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Assiste-t-on au rapprochement des deux Corées ? Bonjour Antoine Bondaz, vous êtes
Bonjour.
Chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, enseignant à Sciences Po. Alors, il y a quelques semaines, on avait l'impression qu'on était à deux doigts d'un conflit nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Nord. Maintenant, on a l'impression que l'on est à quelques instants d'une prochaine réunification. Dites-nous exactement où nous en sommes.
On parle beaucoup de trêve olympique, c'est avant tout une question conjoncturelle. Vous avez côté sud-coréen, depuis le retour au pouvoir des progressistes au printemps de l'année dernière, une volonté de réengager la Corée du Nord et une main qui est tendue depuis plusieurs mois par la Corée du Sud. Cette main a été saisie par la Corée du Nord le 1er janvier 2018, puisque la Corée du Nord a plusieurs raisons et a intérêt à participer à ces Jeux Olympiques.
Alors c'est ça qu'il faut que vous nous expliquiez, parce que la main, elle était toujours tendue du côté de la Corée du Sud. C'est la raison pour laquelle la Corée du Nord s'en est saisie, que l'on cherche à comprendre.
Premièrement, la Corée du Nord a, selon elle, complété ses forces nucléaires nationales fin novembre. Alors, il ne faut pas l'interpréter sur le plan technique, il faut l'interpréter sur le plan politique. L'objectif pour Kim Jong-un, il est de montrer qu'il a réussi son objectif, ce qui le légitime en interne, mais aussi ce que recherche Kim Jong-un, c'est montrer qu'il est en position de force aujourd'hui pour négocier et potentiellement pour conduire un gel des essais nucléaires et balistiques, ce qui ouvre la voie à la participation aux Jeux Olympiques. Mais deuxièmement, Kim Jong-un va chercher à utiliser les Jeux Olympiques, que ce soit sur le plan interne et sur le plan international, premièrement pour faire diversion, c'est-à-dire qu'on parle pendant plusieurs semaines de la Corée du Nord comme une puissance normale, entre guillemets, et non pas du programme nucléaire et balistique qui, lui, se poursuit. Chercher à présenter ces Jeux Olympiques comme des Jeux coréens et non comme des Jeux sud-coréens. Et ça, c'est extrêmement important en interne pour lui. Et puis, troisièmement, chercher à gagner du temps et chercher à tester l'alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud.
Pourquoi vouloir passer pour un pays normal pour la Corée du Nord, alors que pendant des années, il s'est agi au contraire de passer pour un pays anormal, un pays menaçant, avec des bénéfices sur le plan diplomatique que vous avez résumé, Antoine Bondaz?
Depuis son arrivée au pouvoir, la stratégie de Kim Jong-un est de miser tant sur le développement des capacités nucléaires que des capacités économiques du pays, ce qu'on appelle la ligne Pyongjin. Pour cela, la Corée du Nord a besoin de développer ses capacités. Elle l'a prouvé notamment en 2017. On rappellera par exemple que Kim Jong-un en 2017 a réalisé plus d'essais balistiques que son père entre 1994 et 2011. Mais il y a un second volet qui est important pour la Corée du Nord, c'est-à-dire se concentrer sur les questions économiques et bien évidemment éviter tout conflit dans la péninsule. Et la stratégie de la Corée du Nord va être d'avancer le plus possible son programme nucléaire tout en évitant un conflit qui conduirait très certainement à un effondrement du régime nord-coréen.
Et ça, il le sait, il n'est pas irrationnel à cet égard, selon vous, Antoine Bondaz.
Kim Jong-un peut être imprévisible, le régime peut être imprévisible, ça a été sa force pendant des décennies, mais il n'est en aucun cas irrationnel. Vous avez une élite à Pyongyang qui a un intérêt fondamental, assurer sa survie, que ce soit par le développement du programme nucléaire ou aujourd'hui par cette détente, entre guillemets, avec la Corée du Sud.
On parle d'un développement économique, on parle de l'apparition d'un marché libre, d'une incitation à faire entrer des touristes en Corée du Nord. Est-ce un véritable mouvement ou bien s'agit-il de quelque chose véritablement d'embryonnaire, Antoine Bondaz?
Ce qu'on peut qualifier de marchéisation par le bas de l'économie nord-coréenne a commencé dès les années 90, lorsque la Corée du Nord a traversé une crise sans précédent pour le pays. Cette marchéisation s'est poursuivie dans les années 2000, mais a été suspendue et même renversée à la fin des années 2000 pendant la transition politique de Kim Jong-il à Kim Jong-un. L'objectif alors du régime était de resserrer les vis et de s'assurer de la stabilité politique en Corée du Nord. Depuis son arrivée au pouvoir, Kim Jong-un a desserré ses vis. Il a entrepris des réformes économiques qui ne sont pas en soi uniques, puisqu'en réalité, on revient à un statut précédent.
Et ça veut dire que aujourd'hui, la situation économique du pays est meilleure qu'auparavant ?
Elle est en tout cas meilleure que dans les années 90. La Corée du Nord est entrée dans une crise, encore une fois économique, humanitaire, sociale, à la fin des années 80. Elle en sort progressivement aujourd'hui. C'est quasiment 30 décennies perdues pour le régime coréen. Alors après, bien évidemment, le développement est avant tout concentré sur la ville de Pyongyang, qui rassemble l'élite, et en aucun cas sur l'ensemble du territoire.
Et que sait-on sur les droits de l'homme, sur les camps? Il y avait des camps, il reste des camps en Corée du Nord. Aujourd'hui, qu'en est-il?
La nature du régime politique nord-coréen n'a pas évolué, malgré l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un. La Corée du Nord demeure un État qu'on peut qualifier de totalitaire. Il y a un contrôle total sur la population et l'envoi d'une partie des opposants ou de potentiels opposants dans des camps politiques continue aujourd'hui sous Kim Jong-un.
Est-ce qu'on peut imaginer du coup un rapprochement véritable entre les deux Corées? Est-ce que l'hypothèse d'une réunification est possible, sachant que la Corée du Sud, qui reste sans commune mesure un pays plus puissant que la Corée du Nord, souffre malgré tout d'un ralentissement économique et puis des problèmes politiques que l'on sait suite aux questions de corruption, d'affaires troubles, de fromage, enfin bref.
Alors, réunification à court terme, non. La question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de la réconciliation, premièrement, entre les deux Corées. Mais il faut bien rappeler qu'on est aujourd'hui à un plus bas dans les relations intercoréennes depuis les années 90. Il y avait eu un développement continu de ces relations de la fin des années 90 à la fin des années 2000. Avaient été symboliques notamment les deux sommets présidentiels en 2000 et en 2007, et puis des projets de coopération concrets, notamment un complexe industriel à la frontière. Ces 10 dernières années, les relations se sont progressivement détériorées, à tel point qu'il y a quelques mois, et avant cette ouverture diplomatique, vous n'aviez plus de coopération, plus de commerce et même plus de dialogue entre les deux Corées. Et donc il faut être, je pense, extrêmement prudent. Vous avez un renversement de la tendance, mais nous sommes dans un contexte qui est encore extrêmement détérioré pour les relations intercoréennes.
Donc on revient de loin en fait.
On revient d'extrêmement loin.
Merci beaucoup Antoine Bondaz de nous avoir exposé cette situation entre les deux Corées. Je rappelle que vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique et enseignant à Sciences Po. Vous avez notamment publié avec Benjamin Decoing, Corée du Nord, plongée au cœur d'un État totalitaire. C'est aux éditions du Chêne.